À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Quand viendra le Défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. » J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Cette année-là, l'année de la mort, et nous savons de la résurrection de Jésus, la fête de Pentecôte était une grande fête, comme elle est tous les ans, mais d'une manière spéciale. Et il y avait des gens de vraiment toute la dispersion, de toute la diaspora qui étaient venus. La fête de la Pentecôte était une fête et est une fête importante. C'est à la fois une fête des prémices, la fête des moissons, parce qu'en Israël, les deux premiers fruits, il y a 7 fruits dans la Bible qui sont nommés, et les deux premiers, le blé et l'orge, à cette époque-ci de Pentecôte, eh bien, est déjà moissonné depuis un bout de temps. Et on peut apporter dans la joie les gerbes. C'est vraiment quelque chose où on apporte sa collaboration au Seigneur et on lui donne les premiers fruits, ce qui est le plus beau, pour que nous puissions nous réjouir, comme disaient les textes de l'Écriture tout à l'heure. Mais c'est surtout la fête du Matan Torah, du don de la Torah, du don de la loi, du jour où Moïse a reçu la loi sur le mont Sinaï. Et notre texte des Actes des Apôtres, il fait tout de suite allusion par le bruit qui vient du ciel, le vent, la tempête qui est là, le tremblement de terre qui secoue la maison et par les langues de feu. C'est exactement le vocabulaire que nous avons dans le livre de l'Exode au chapitre 19. Mais dans la section qui est lue dans la synagogue et qui prouve une certaine intelligence de l'Écriture, la section du don de la loi, elle commence au chapitre précédent pour nous faire comprendre ce qu'est la loi. Et il faut nous y arrêter un moment pour comprendre pour nous ce qui se passe le jour de Pentecôte. Vous savez que dans le désert, après 1 an et 3 mois, le peuple est dans le désert et le beau-père de Moïse vient visiter son gendre avec ce peuple qui est dans le désert. Et il le voit avec une mine déconfite, un peu pâle, épuisé. Il n'arrive plus à faire jour et nuit, il travaille, il reçoit les gens qui ont des disputes pour régler les comptes entre les gens, pour essayer de faire la paix, etc. Et il trouve son gendre exténué. Alors il lui dit comme un bon père, comme un bon beau-père, « Ah mon fils, tu ne sais pas très bien fait. Je vais t'enseigner, je vais te donner un conseil où tu vas pouvoir te reposer, ça va aller mieux, parce que sinon tu ne vas jamais durer, tu ne vas jamais pouvoir arriver à terme dans là où tu veux aller, où le Seigneur veut t'emmener. » Et il lui dit, « Tu vas nommer des chefs, des juges, pour des dizaines de personnes, pour des cinquantaines de personnes. On va organiser et ils vont juger toutes les petites affaires et toi, tu jugeras simplement les grandes. Il faut un petit peu d'organisation pour pouvoir mener un peu ton entreprise et ta mission à bien. Et on sait par le texte parallèle dans le livre des Nombres que c'est une véritable Pentecôte. Ben, ça va tomber le jour de la Pentecôte, mais parce qu'il y a l'esprit de prophétie, l'Esprit Saint qui tombe sur ces 70 personnes qui sont utilisées, même ceux qui ne sont pas dans le camp, Eldad et Médad, ils reçoivent aussi cet Esprit Saint. Et ils se mettent à prophétiser, à parler au nom du Seigneur. Et puis, il y a cet événement du don de la loi. Et il nous faut réfléchir à ce qu'est ce don de la loi. La loi a été donnée pour que ce ramassis de gens qui sont sortis, qui étaient opprimés en Égypte, les familles de Jacob, bien sûr, mais aussi beaucoup de gens avec eux, eh bien, étaient un peu comme des brebis sans berger. Et pour qu'ils soient un peuple, comme pour tout peuple, il leur fallait une loi. Il leur fallait un droit. Mais voici, Moïse va... Qu'est-ce qu'il fait ? La loi est donnée pour donner un chemin de vie, pour que la vie commune soit menée. Mais comme l'enseigne Jésus, cela se fait à partir en concédant du terrain, en faisant des compromis entre les personnes qui sont dans la convoitise, qui sont dans les disputes, qui sont dans les querelles, il essaye d'y mettre un petit peu de paix. Et nous découvrons ces paroles de vie qui vont être données au Sinaï, et bien et notamment les 10 commandements, les 10 paroles qui sont données, qui vont créer ce peuple, comme par 10 paroles le Seigneur a créé le ciel et la terre, au livre premier de la Genèse. Et bien, nous avons le Seigneur Moïse qui va essayer. Mais qu'est-ce qu'elle est, cette loi ? Elle indique dans tous les domaines des relations avec Dieu, des relations des hommes entre eux, des relations avec les hommes eux-mêmes. Elle va dire ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas franchir pour ne pas engendrer la mort, mais pour pouvoir être des instruments de paix et vivre ensemble. Mais il y a un dernier commandement qui est tout à fait étonnant. Tu ne convoiteras pas, tu ne désireras pas, ni la femme de ton prochain, ni l'âme de ton prochain, ni la maison de ton prochain, ni tout ce qu'il peut avoir. Et c'est étonnant, si vous avez fait un tout petit peu de droit, quelle loi dans quel pays condamne les désirs du cœur ? Mais vous avez ici, dans ce dernier commandement, eh bien, la finalité, le sens, cette loi... Elle est donnée pour purifier notre cœur, pour qu'il ne marche plus suivant la convoitise, mais suivant le bien avec lequel le Seigneur nous a créés. Et c'est effectivement ainsi que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5e, et dans le sermon sur la montagne, c'est ainsi que nous est donné comment Jésus lit, comment il accomplit la loi, il la relie dans la finalité, dans le dernier commandement. Et il va, avec cette loi, dire, non, non, on ne va pas faire comme avec Moïse, en partant, en concédant à la méchanceté de notre cœur, à nos mauvais penchants. Mais le royaume des cieux est là. Et je vous invite à toujours partir, non pas à partir de vos péchés, non pas à partir de vos blessures, non pas à partir des désirs mauvais de notre cœur qui veut attirer les choses à soi ou faire sa sécurité pour soi tout seul, mais à partir de cet amour dans lequel vous avez été créé. Et toute l'histoire ensuite du peuple d'Israël va être cette histoire. Combien ce long chemin où la grâce de Dieu agit vraiment, mais où nous avons tellement de difficultés à tenir, à laisser purifier notre cœur. Et voici ce jour de Pentecôte, fruit, finalité de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Jésus, cette libération du don de l'Esprit Saint, ce qui ne nous était pas possible devient possible à ceux qui se laissent inviter, ou comme dit saint Paul ici, qui se laissent conduire par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est donné. Et de la même manière que le Seigneur s'est révélé dans le feu au Sinaï, avec son doigt de feu, avec ses traits de feu, qui ont écrit dans la pierre les 10 commandements, comme nous le représente d'une manière imagée l'admirable vieux film de Cécile B2000, les 10 commandements. Mais de la même manière que c'est inscrit par ce feu dans la pierre, les commandements de Dieu, eh bien, le commandement de Jésus et les commandements de Dieu s'écrivent à la Pentecôte, avec ces flammes qui descendent, eh bien, dans le cœur, dans la chair des hommes. Et c'est ainsi que saint Paul nous invite à choisir, à nous déterminer, à écouter. Ne donnez plus libre cours, ne partez pas à partir de la chair. La chair, c'est-à-dire l'homme abandonné à ses propres forces, avec sa seule perspective, qui essaye de se débrouiller comme il peut avec les autres, en se faisant une place plus ou moins grande suivant ses dons et sa capacité. Mais partez à partir de l'Esprit. Cet Esprit qui a été répandu dans nos cœurs en abondance. Il est bien dommage que bien souvent nous ne comprenions notre relation à Dieu, notre religion, que comme un moralisme, ou au mieux, de la même manière que Moïse, en essayant de colmater les brèches avec quelques principes qui vont nous aider, quelques barrières qu'il ne faut pas franchir, alors que Jésus veut nous révéler beaucoup plus. Regardons dans notre vie, oh, vous comme moi, combien de fois nous vivons à partir simplement, en essayant à partir de nos désirs, de nos convoitises, de nos peurs, de comment nous mettons des barrières les uns envers les autres, et non pas à partir de ce regard du Père qui a dit à chacun d'entre nous le jour de notre baptême, et cette parole est éternelle et cette parole ne passera pas, « Tu es mon Fils bien-aimé, je t'ai donné tout mon héritage, toute ma confiance, tout mon amour. » Comme je l'ai mis en Jésus, tu es fils, je la mets en toi. Demandons en ce jour de Pentecôte de laisser nos cœurs se laisser habiter, se laisser entraîner, de nous dépouiller du vieil homme, de nous dépouiller de tout ce ici qui fait tellement notre vie de tous les jours, à des degrés différents, soit dans les journaux, mais soit dans nos vies, soit nous avons tellement, et nous sommes tous très souvent dans nos familles, dans nous-mêmes, dans nos communautés, avec ces histoires de querelles, de divisions, d'envie, de jalousie, etc. Hein, pour ne pas parler, on voit combien cela aussi est un fléau dans notre société, la sorcellerie, l'idolâtrie, les haines, les beuveries, etc., les rivalités. Demandons de pouvoir suivre cet esprit qui est amour, joie, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Le Seigneur dépose par son amour, comme un germe, toutes ces vertus que nous sommes appelés à cultiver, que nous sommes appelés à mettre en place dans notre cœur. Et voici l'œuvre de la Pentecôte. Et la deuxième, ce texte de la Pentecôte, il y a une deuxième allusion aussi à l'Ancien Testament, qui est la Pentecôte qui répond à Babel. Chose étonnante. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, parce qu'ils ont décidé, eh bien, ils prononcent les merveilles de Dieu, et que ceux qui sont là, de toutes les langues, ils comprennent. Oh, quel miracle! Ça, c'est le désir de tous les prédicateurs. Hein, si ce qu'il est annoncé, l'évangile que nous essayons d'annoncer, si chacun pouvait comprendre pour se laisser remplir de l'Esprit Saint et avancer, se lever ensemble et marcher vers le Seigneur comme nous allons le faire pour la communion. Eh bien, à l'opposé, il y a Babel, ce désir des hommes de faire une unité comme aujourd'hui on le voit, nos pays désirent faire une unité. On désire plus que jamais. Mais quelle unité proposent, eh bien, les habitants de la terre, les hommes abandonnés à leur propre force? Eh bien, dit le texte de la Genèse, ils font cette unité pour leur propre renommée, pour se faire un nom, et avec ce nom pouvoir aller conquérir le pouvoir de Dieu, conquérir la gloire, conquérir la force pour soi, en quelque sorte, contre Dieu, contre cet essentiel. Et ici, le texte des Actes des Apôtres nous dit d'une autre manière. Ce n'est pas pour leur renommée, pour eux-mêmes, pour la chair, on pourrait dire, mais c'est pour annoncer les merveilles de Dieu. Ils annonçaient les merveilles de Dieu, ils annonçaient les exploits, les actions de Dieu, et tous les comprenaient, les voyaient. Et c'est parce qu'ils annoncent ces merveilles de Dieu. Combien de fois nous essayons dans nos discussions d'imposer nos points de vue, notre vérité, etc., alors qu'il nous suffirait bien souvent de proclamer, de voir, mais il faut demander de le voir déjà, les merveilles de Dieu, de vivre dans cette action de grâce, de vivre dans la bénédiction, comme notre baptême, je le disais tout à l'heure, nous le rappelle, de vivre dans comme nous sommes sortis et de voir en chacun comment il est sorti des mains de Dieu dans une beauté infinie et qu'il nous faut avec Jésus restaurer. Cette fête de la Pentecôte, elle nous invite dans notre vie chrétienne à ne pas rester sur la marge, à ne pas rester sur le bord. Et c'est bien pour ça que la confirmation et ce don de l'Esprit-Saint en plénitude qui est donné aux chrétiens. Car nous ne recevons pas l'Esprit-Saint simplement pour notre petite vie, pour que tout aille bien pour moi, pour que voilà, mais pour que nous soyons, que nous portions du fruit, que nous puissions avoir le regard éclairé avec ce collier de Jésus, qui même des plus grands pécheurs sait voir les fils de Dieu, les appeler à la vie, les appeler à se lever d'entre les morts, à ouvrir les yeux pour les aveugles, à marcher droit et à courir pour les boiteux, à ouvrir les oreilles pour les sourds et à chanter pour les muets. Et bien que cette liturgie soit ensemble un chant de louange au Seigneur et que nous puissions nous laisser conduire par l'Esprit Saint ensemble, aujourd'hui et tous les jours de l'année, puisque cette fête de Pentecôte va nous précipiter dans ce qu'on appelle le temps ordinaire, parce que le temps ordinaire du chrétien, c'est de vivre de l'Esprit Saint. Amen.